Bonjour à tous. Comme on s'approche d'Halloween, j'ai eu envie de faire quelque chose en rapport avec cette fête, mais plutôt que d'évoquer les forces diaboliques, les forces ténébreuses, je me suis dit que c'était peut-être mieux, dans ce monde qu'on dit volontiers chaotique, de proposer un conte qui pourrait, au contraire, servir d'antidote aux forces ténébreuses. Et donc je vous propose un conte de Grimm qui s'appelle Jean le Fidèle. J'étais Jean le Fidèle. Le roi m'appelait même parfois mon Jean le Fidèle. Et c'est vrai que tout au long de sa vie, je l'ai servi avec une fidélité absolue, une fidélité infinie. Et c'est sans doute l'infini de cette fidélité qui, en réalité, m'a donné accès à un infini dans le monde invisible. En tout cas, bref, quand le vieux roi a senti qu'il s'approchait de sa fin, il m'a fait venir à son chevet et il m'a dit « Mes yeux ne se fermeront pas en paix si je n'ai pas ta promesse que tu seras pour mon jeune fils comme un second père. Tu sais, il est encore dans ses jeunes années où l'on ne sait guère trop comment se conduire. » Alors tout de suite, j'ai pris la main du roi et je lui ai promis que je servirais son fils aussi fidèlement que je l'avais servi lui. Et il eut encore le temps d'ajouter ceci. « Lorsque tu lui feras découvrir tous les trésors du château dont il hérite, quand tu lui ouvriras toutes les portes, ne lui ouvre pas, tu sais, celle qui est au fond du grand couloir en bas, parce qu'il y a là le portrait de la princesse du Dôme d'Or. Et comme je connais mon fils, s'il le voyait, il en tomberait furieusement amoureux et il s'exposerait à de graves dangers. Tu dois l'en protéger. » Et là-dessus, le roi, eh bien, retomba sur ses oreillers et quelques minutes plus tard, il fermait les yeux pour toujours. Et donc, quand le temps du deuil a été écoulé, j'ai fait découvrir au jeune roi toutes les richesses du château. Mais évidemment, je n'ai pas ouvert la porte de la salle où se trouvait le fameux dangereux portrait. Mais lui, un jour, il s'est posté devant la porte et il m'a dit « Et pourquoi évites-tu systématiquement cette porte-ci ? » Alors je lui ai répondu que je l'avais promis à son père pour lui éviter de graves dangers. « Mais que non ! » s'écria-t-il. « C'est si je n'y entre pas que ma vie ira à sa perte. » Et il déclara fermement qu'il ne bougerait pas de là tant que je ne lui aurais pas ouvert cette porte. Alors, eh bien, j'ai dû m'exécuter. Et quand le jeune roi a vu par-dessus mon épaule le portrait, il en a été saisi. Il faut dire que c'était un portrait, c'était une image, c'était un tableau, mais sa présence était si réelle et aussi il était peint dans une lumière si éclatante que réellement, au sens propre du terme, il en a eu le souffle coupé et il est tombé évanoui. Quand il est revenu à lui, son regard avait changé, comme s'il avait changé d'âme. Et il m'a demandé « Qui est-elle ?» Je répondis alors avec gravité « C'est la fille du roi du Dôme d'Or. » « Je l'aime, » souffla le jeune roi. « Je l'aime. Et si toutes les feuilles des arbres étaient des langues, eh bien elles ne pourraient dire l'immensité de mon amour pour elle. Je la désire tant que je donnerais ma vie pour qu'elle soit mienne. » Le jeune roi était donc prêt à donner sa vie, mais déjà entré en contact avec la princesse du Dôme d'Or, pour lui, ça aurait déjà été toute une prouesse. Mais quant à obtenir sa main, et il le savait lui-même, eh bien, c'était juste hors de sa portée, hein, pour la simple raison qu'il n'avait pas la capacité de l'or. Il n'avait pas le niveau de l'or. Or, il ressentait intuitivement que moi, j'en avais en tout cas la prédisposition. Alors il s'est tourné vers moi. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Tu es mon Jean le fidèle et tu dois m'aider. » Alors je me suis retrouvée avec ce problème à résoudre et longuement j'ai réfléchi. Et puis oui, à un moment j'ai fait une trouvaille en or pour accéder à la princesse d'or au royaume du Dôme d'Or. Mais oui, c'était évident, il fallait donc l'approcher avec de l'or. Alors j'ai dit au jeune roi, voilà ce que je propose. Tu vas prélever sur ton trésor personnel 1 tonne d'or et tu demanderas aux meilleurs orfèvres du royaume de façonner les plus beaux objets en or qu'il leur plaira de faire. Et puis tous ces objets, nous les chargerons sur un navire, nous-mêmes. Nous nous déguiserons en marchant pour ne pas être reconnus. Et nous mettrons le cap sur la terre du Dôme d'Or. Et quand nous toucherons terre là-bas, eh bien, je veux bien me charger d'apporter à la princesse quelques-uns des plus beaux échantillons de ces objets et de tenter de l'attirer sur le navire pour qu'elle puisse découvrir la totalité de l'exposition. Et voilà. C'était une belle stratégie, n'est-ce pas? En tout cas, elle a fonctionné parfaitement et j'en ai été des plus heureux. Et effectivement, j'ai pu attirer la princesse jusqu'au navire pour qu'elle puisse visiter cette exposition. Et quand le jeune roi l'a vue qui s'approchait de la passerelle, alors au premier coup d'œil, il a réalisé qu'elle était, mais bien plus belle encore que son portrait. C'était comme si elle portait une lumière qui venait d'ailleurs. En tout cas, C'est lui qui l'a fait descendre à l'intérieur du bateau et qui lui a fait faire le tour de ses objets. Et moi, pendant ce temps, je me suis mise en retrait sur le pont et j'ai demandé au grand timonier qu'il lève l'ancre et que le navire file comme un oiseau. Et la princesse, elle était si absorbée dans la découverte de ces magnifiques objets en or qu'elle n'a même pas réalisé que le navire quittait le port. C'est seulement quand elle a eu fini de découvrir le dernier objet et qu'elle a voulu remonter sur le pont pour rentrer dans son château, que là, elle a bien vu que le navire était déjà en pleine mer et qu'il filait à vive allure, toute voile dehors. Alors elle s'est écriée « Trahison ! C'est un enlèvement ! Je suis aux mains de marchands ! Plutôt mourir !» Et c'est alors que le jeune roi s'est précipité à genoux devant elle et lui a dit « Pardonnez ma ruse, c'est mon fol amour pour vous qui en a été la cause, parce que lorsque j'ai découvert votre portrait, je suis tombée évanouie. Et puis, je ne suis pas un marchand, en fait. Soyez rassuré, mon sang est aussi noble que le vôtre. Je suis fils de roi. Je suis roi moi-même. Et je n'ai qu'un désir au fond de moi. C'est que vous puissiez devenir mon épouse. » Et là, la princesse l'a regardé avec un regard profond. Et puis, son cœur a dû ressentir un véritable penchant pour lui, parce qu'au bout de quelques minutes, elle a juste dit que son cœur s'inclinait devant le sien et que, oui, bien volontiers, elle voulait bien devenir son épouse. Et donc, le jeune roi ramenait sa fiancée, la princesse du Dôme d'Or, jusque dans son château. Mais en réalité, rien n'était encore gagné. Lui, il pensait qu'il ne devait cette victoire qu'à la puissance de sa passion pour la princesse. Il n'avait pas reconnu alors que c'était moi qui avais tout orchestré. Et puis en fait, je savais bien, moi, que le royaume du Dôme d'Or ne pouvait pas ne pas réagir. Il fallait qu'il éprouve la capacité de celui qui entrait en contact avec lui. Il fallait qu'il éprouve sa capacité. Alors j'en étais sûre, il enverrait des épreuves. Et effectivement, un après-midi, j'étais sur le pont et je guettais l'horizon comme on guette un orage invisible. Lorsque sont apparus trois corbeaux qui, à n'en point douter, étaient des messagers du royaume du Dôme d'Or. Et ils parlaient entre eux. Et moi, j'ai tout entendu et j'ai tout compris. Et voilà ce que disait le premier corbeau. « Ah ! Mais la princesse, il ne la tient pas encore, hein, Da ? Parce que quand il va toucher terre, il y aura un magnifique cheval roux qui viendra piaffer devant lui et il n'aura qu'une envie, c'est de le monter. Mais ce cheval l'emportera dans les airs, Dieu sait où, et il ne reverra plus jamais la princesse. Et le second corbeau l'interrogea en disant « Alors, point de salut, aucun recours ?»« Ah !» dit le premier corbeau, « si quelqu'un pouvait enfourcher la monture avant le jeune roi et abattre ce cheval, alors le jeune roi serait épargné. Mais qui le sait ? Et celui qui le saurait, s'il parlait, eh bien, il serait pétrifié des pieds jusqu'aux genoux. » Et le second corbeau dit à son tour, « Mais ce n'est pas tout, parce que quand ils vont arriver tous les deux au château du roi, on leur présentera sur un plateau en or une chemise nuptiale pour le roi, qui paraîtra faite d'or et d'argent, et en réalité, elle sera faite de soufre. Si bien que, s'il l'enfile, il en brûlera jusqu'à la moelle des os. » Et le troisième corbeau dit, « Mais alors ? Point de salut, aucun recours. » Ah, dit le deuxième corbeau, si quelqu'un avec des gants pouvait se servir de la chemise nuptiale et la jeter dans le feu, elle brûlerait. Mais qui le sait ? Et celui qui le saurait, s'il parlait, eh bien il serait pétrifié, des genoux jusqu'à la taille. « Mais il y a encore autre chose !» s'exclama le troisième corbeau. Après le mariage, lorsque la jeune reine entrera dans le bal, elle deviendra soudain exsangue. Et si quelqu'un ne se penche pas sur son sein droit pour sucer trois gouttes de son sang et les recracher aussitôt, elle sera morte. Et quiconque le saurait et en parlerait serait pétrifié, mais des pieds jusqu'à la tête, de la tête jusqu'aux pieds. Et là-dessus, eh bien, les trois corbeaux se sont éloignés. Et moi, je suis restée dans une perplexité profonde. C'était terrible. J'étais le seul à avoir entendu ce message, le seul à savoir, et si je ne disais rien, eh bien, il était clair que le jeune roi allait à sa perte. Mais si je parlais, c'était ma propre vie qui était en jeu. Alors j'ai réfléchi. Et finalement, j'ai décidé que je sauverais le roi, quoi qu'il arrive, fût-ce même au prix de ma vie. Alors, eh bien, quand le fameux cheval piaffant s'est présenté, eh bien, j'ai bondi avant que le jeune roi n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit. J'ai bondi sur le cheval avec une arme à feu et je l'ai abattu. Et puis, quand on a présenté cette chemise nuptiale, eh bien, j'ai mis des gants et puis je l'ai prise et je l'ai jetée dans le feu. Et le jeune roi, eh bien, il a déclaré très fort, parce qu'il y avait des rumeurs de réprobation dans l'assemblée, les gens ne comprenaient pas. Alors il a dit, « C'est mon Jean le fidèle. » Et il sait ce qu'il fait. Mais lorsque la troisième fois, il m'a vu pencher sur le sein de sa bien-aimée, et il m'a vu en contact si intime avec elle que là, il n'a pas pu résister. Il n'a pas compris. En fait, il s'est senti trahi. Alors il s'est écrié fou de colère qu'on le jette en prison. Et là, tout s'est passé très vite. Dès l'aube, le lendemain matin, j'ai été jugée, condamnée, et on m'a emmenée jusqu'à la potence. Mais là, j'ai demandé, avant de mourir, de pouvoir parler une dernière fois. Et là, j'ai expliqué que j'avais entendu les épreuves annoncées par des corbeaux qui parlaient entre eux et que j'avais tout fait pour sauver mon maître. Alors le jeune froid s'est écrié « la grâce, qu'on le fasse redescendre !» Mais c'était trop tard. J'étais en réalité déjà transformée en statue de pierre. Depuis ce temps-là, le roi est resté prostré. C'est vrai qu'il avait perdu son plus fidèle serviteur, celui-là même qui lui avait permis d'accéder à la princesse du Dôme d'Or, qui était devenue son épouse, celui-là même qui lui avait sauvé la vie à 3 reprises. Alors il a fait mettre ma statue dans sa chambre conjugale. Et à chaque fois qu'il passait devant elle, il la regardait, il me regardait et il soupirait. Ah, si seulement je pouvais te rendre la vie. En fait, moi, je n'étais plus qu'un souffle enfermé dans cette statue de pierre. J'étais vivant, mais tellement faible et tellement souffrant. Et voilà, en fait, le temps a passé, des années ont passé, le roi et la reine ont eu 2 petits jumeaux, de magnifiques petits bambins qui faisaient leur joie. Et un jour, la reine était partie prier à l'église et les enfants jouaient près de leur père, près du jeune roi, lorsque celui-ci, à nouveau, m'a regardé, pétrifié en cette statue. Et à nouveau, il a soupiré. Hélas, que ne puis-je te rendre la vie, ô mon fidèle Jean? Et c'est là que moi j'ai senti comme une rumeur qui grondait en moi et dans un souffle rauque s'énonçaient en moi des mots hésitants d'abord. Oui. Tu le peux, si tu sacrifies tes propres enfants. Alors le jeune roi, il a bondi sur ses pieds et puis il a dit « Mais je donnerai tout pour que tu retrouves la vie. » Alors j'ai parlé de nouveau, plus clairement, maintenant, cette fois. Et j'ai dit, si de ta propre main, de ta propre épée, tu coupes le cou de tes enfants, tu coupes leur tête, et que tu frottes la statue avec leur sang, eh bien, je reprendrai vie. Et là, L'épouvante a parcouru le regard du jeune roi, sacrifié ce qu'il avait de plus cher au monde. Mais en même temps, il savait que j'avais donné ma vie pour lui. Alors, eh bien, la mort dans l'âme et une prière secrète au cœur. Il a pris son épée et il a tranché le cou des deux petits. Et puis, il a pris leur sang et il a frotté la statue avec leur sang. Et immédiatement, j'ai retrouvé la vie. À nouveau, je me suis animée. À nouveau, j'étais Jean le fidèle, en pleine vie. Alors la première chose que j'ai faite, vous vous en doutez, ça a été de prendre les deux têtes des petits jumeaux et puis de les replacer sur leur corps menu. Et j'ai frotté un peu de sang à la place des blessures. Et oh, eh bien, ils ont été à nouveau là, en pleine santé, comme si de rien n'avait été. Et c'est à ce moment-là que nous avons entendu que la reine rentrait. Alors très vite, le roi nous a fait rentrer dans une grande armoire, les petits jumeaux et moi-même, et il a fermé très vite la porte. Et quand la reine est arrivée, il lui a demandé si elle avait bien prié à l'église. Elle a répondu que oui, enfin, elle avait surtout pensé à Jean le fidèle, qui était mort à cause de nous, a-t-elle dit. Alors le jeune roi lui a tout de suite dit qu'en fait, il y avait un moyen de lui rendre la vie, mais ce serait au prix de la vie de leurs propres enfants. Et là, l'horreur a pu se lire dans le regard de la reine. Mais tout de suite, elle a dit « Il a ce droit sur nous parce que il est d'une fidélité infinie. Il a été d'une fidélité infinie. » Alors à ce moment-là, happy end. Le jeune roi a ouvert la porte de l'armoire et moi-même et les deux petits sont apparus. Et voilà, c'est ainsi que le jeune roi finalement s'est hissé au niveau d'infini qui était le mien. C'est ainsi que il est devenu lui-même finalement digne de l'or. Il a atteint le niveau de l'or dont je lui avais ouvert la voie. Et il n'était plus, non, il n'était plus le roi aveugle, ivre de désir qu'il avait été au départ. Il était devenu un homme nu, un homme dépouillé, qui avait traversé les épreuves de l'or et qui avait appris à se relier à la source elle-même. Alors, quelques commentaires, comme je le fais habituellement. Pourquoi cette histoire, et en particulier au moment d'Halloween? En fait, il me semble qu'elle nous invite à accéder en réalité à un autre niveau de vibration. dont Jean le fidèle est capable, en lui, dès le départ, à cause de sa qualité infinie de fidélité. Et c'est donc lui qui va ouvrir la voie au jeune roi, qui est passionnément épris de la princesse du Dôme d'Or, qui représente sans doute cette qualité d'un autre espace, cette autre vibration, cette autre lumière. Et toute l'histoire va consister dans le fait que le roi, finalement, va faire lui-même le chemin à travers des épreuves pour accéder lui-même au niveau de l'or et au niveau de l'infini. Alors je me dis que peut-être bien que pour résister à toutes les forces chaotiques que l'on peut rencontrer en nous et autour de nous, eh bien c'est l'infini de nous-mêmes qui existe à travers nos qualités infinies qu'il nous faut peut-être contacter pour pouvoir accéder à une autre dimension. En tout cas, bonne fête d'Halloween à tout le monde.
Mon Paris est fait.